Pour commencer ce début de culte, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Proverbes, chapitre 17, au verset 17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. Amen.
Avec un texte comme celui-ci, on peut parler de tout. C'est exprès si j'ai pris un texte suffisamment vaste, parce que j'aimerais vous parler d'un personnage ce matin dont on parle très peu dans nos églises, mais qui pourtant a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce qu'on ne peut pas citer ce personnage en exemple, parce qu'on ne va pas inviter les personnes à faire comme lui. C'est un homme qui intrigue et plusieurs mystères entourent son nom. Depuis des siècles, plusieurs écrivains ont voulu s'intéresser à lui pour prendre sa défense, pour le disculper, pour lui donner peut-être des circonstances atténuantes. Ou au contraire, ils ont accru l'image d'horreur du personnage. Ainsi, dès le IIe siècle, l'évêque Papias racontait qu'après sa terrible erreur, cet homme avait vu son corps enflé démesurément, qu'un chariot l'avait écrasé et que ses intestins s'étaient répandus à terre. Certains ont voulu réhabiliter sa mémoire. Ainsi, il y a 50 ans, un célèbre auteur et metteur en scène au cinéma, un certain Marcel Pagnol, a écrit une pièce de théâtre sur ce personnage biblique. Je ne dirais pas qu'il est presque autant connu que Jésus, mais pas loin quand même. Sa célébrité a fait même que son nom est devenu un nom commun, désignant une petite ouverture dans une porte, permettant de voir sans être vu. Il était l'un des 12, il a trahi Jésus. Vous avez compris de qui je veux parler. Il s'appelle Judas. Curieux en effet de prendre comme sujet de message Judas, qui, comme je disais, on n'a rien à lui envier quand même. Hein. Et surtout pas un encouragement à reproduire ce qu'il a fait. Alors pourquoi Judas est un personnage malgré tout intéressant ? Eh bien, justement parce que autour de son nom, plusieurs mystères demeurent. Et j'aimerais juste qu'on puisse brosser ces quelques mystères et nous poser un certain nombre de questions par la suite. On constate d'abord autour de ce personnage plusieurs points d'interrogation. Et d'abord son nom même, Judas, qui était surnommé Judas l'Iscariote. Et ce surnom peut être interprété de plusieurs manières différentes. Et d'abord, certains pensent qu'il serait issu d'une transcription de l'hébreu signifiant simplement « l'homme de Cariote ». Cariote étant une localité située au sud d'Hébron. Donc on dirait, voilà, Judas, celui qui vient de Cariote. Mais derrière ce surnom-là, il y a aussi une autre signification. Car certains y voient aussi la transcription d'un autre terme hébreu signifiant « l'homme de mensonge » ou « un homme faux ». Je dirais plus facilement un hypocrite. Et voilà déjà une allusion. Judas l'hypocrite, Judas l'homme faux, Judas l'homme de mensonge. D'autres enfin pensent que Iscariote serait simplement une corruption d'un mot ayant donné en français le mot sicaire, c'est-à-dire un assassin tueur à gages, estimant que Judas aurait appartenu à un mouvement activiste de l'époque du type Zélote. Et Judas va retenir l'attention des évangélistes. Son nom est cité 26 fois en comparaison d'autres disciples, André ou Thomas, qui ne le sont que 13 et 11 fois. Judas est cité en dernier dans la liste des 12, mais voilà que les évangiles insistent sur sa qualité d'apôtre au sens strict. L'évangile nous dit il est l'un des 12, ou il est du nombre des 12. Pas question donc de le mettre à l'écart. Pierre dira même de lui lors de l'élection qui va le remplacer, dans Actes chapitre 1, verset 17, il fallait eh bien remplacer Judas. Eh bien, c'est Matthias qui a été choisi. Et lorsque Pierre évoque cet aspect-là, dans Actes 1, verset 17, déjà à la fin du verset 16, il précise que Judas a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et il ajoute, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cette insistance à présenter Judas comme étant l'un des douze semble être volontaire, calculée comme pour mieux montrer le contraste entre ce terrible fait, c'est que Jésus, ce Judas-là, est celui-là même qui a livré Jésus. Pourtant, il était l'un des douze. Plusieurs fois dans l'Évangile, à côté de ce nom Judas, il nous est précisé qu'il allait être celui qui allait livrer Jésus. Par exemple, dans Jean chapitre 6, au verset 71, alors que Jésus venait de répondre, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon, dit-il. » Et le texte nous précise qu'il parlait de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Mais dans d'autres textes, nous retrouvons cela. Lors de l'annonce de la trahison, lors du récit de la mort de Jésus, dans Matthieu 27, verset 3, on nous précise Judas, celui qui allait livrer Jésus. Le deuxième mystère qui entoure le nom de Judas, c'est peut-être le mobile de sa trahison. Pourquoi a-t-il fait cela? Et là encore, plusieurs hypothèses nous sont proposées. Et première hypothèse qu'on peut peut-être lancer, c'est peut-être la jalousie. La jalousie à l'égard du reste du groupe des apôtres. Peut-être une possibilité. Deuxième élément, peut-être la cupidité, cet amour de l'argent qui lui fera dire au grand prêtre dans Matthieu 26, verset 15, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» C'est ce même Judas d'ailleurs qui va remarquer lorsque Marie répand sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix, et c'est lui qui va s'exclamer « Mais on aurait pu le vendre pour 300 deniers !» Alors est-ce cet appât du gain qui a fait que Judas livre Jésus. Troisième hypothèse, la déception. Celle de voir Jésus renoncer à une libération politique, tant attendue par les Juifs et notamment par les Zélotes. Alors peut-être a-t-il voulu provoquer le destin, faire quelque chose, déçu qu'il a été de voir que Jésus n'est pas ce libérateur politique attendu. Mais en fait, si on ne peut pas totalement exclure l'une des trois hypothèses, le texte biblique insiste sur un tout autre aspect. Et dans Jean 13, verset 2, nous lisons cet élément de réponse. Alors que nous nous trouvons dans ce moment qui précède la fête de Pâques et ce fameux souper, on appelle la scène. Jean 13, verset 2, on nous dit que pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, alors Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Voilà que ce texte de Jean 13 nous révèle que l'intervention du diable y est pour quelque chose. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Simon le dessein de le livrer. Troisième mystère autour de Judas, celui des circonstances de sa mort. Parce que là aussi, il y a plusieurs éléments, et notamment deux fins qui nous sont rapportées. Selon Matthieu 27 d'abord, Judas se serait pendu après avoir reconnu sa faute. Nous lisons cela dans Matthieu 27, à partir du verset 3. Je lis Matthieu 27, verset 3. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Voilà cette fin de Judas décrite ici dans ces quelques versets. Judas qui alla se pendre. Et voilà que si nous tournons quelques pages de notre Bible et que nous allons dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 16. C'est Pierre qui parle et qui dit « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » Verset 18, « Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Voici donc que selon ce texte qui nous est rapporté, Judas serait décédé d'une mort violente, tête fracassée, entrailles répandues, après avoir acquis un domaine avec le salaire de sa trahison. Alors n'essayons pas d'harmoniser artificiellement ces deux versions de cette fin de Judas. Toujours est-il que dans les deux textes, le point commun, c'est que cette fin, elle est tragique, elle est brutale. Et d'ailleurs, Jésus l'avait prédit lorsqu'il a déclaré « Malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. » Alors, ce qui m'interpelle dans Judas, ce n'est pas forcément la vie de cet homme, et c'est vrai qu'on peut... L'intérêt n'est pas de rester sur ce personnage, mais d'observer l'attitude de Jésus envers Judas. Quel regard Jésus porte sur le traître parmi les traîtres? Immanquablement, il nous vient une question légitime lorsqu'on parle de Judas, c'est pourquoi a-t-il été choisi par Jésus pour être au nombre des 12? Pourquoi a-t-il été choisi par Jésus? Voilà un fait qui intrigue un bon nombre d'historiens et des théologiens. Et cette question-là touche à un dessein divin et peut donc difficilement répondre d'une manière définitive et tranchée. Ce que nous savons de la parole de Dieu, c'est que Jésus dit clairement à ses disciples qu'il connaît ceux qu'il s'est choisis. Dans Jean 13, verset 18, nous avons cet élément-là qui nous permet en tout cas de dire que ce n'est pas une erreur de casting de la part de Jésus. Parfois nos choix font qu'on se mord les doigts après avoir fait un mauvais choix en se disant voilà, je pensais que lui allait faire l'affaire et finalement je me rends compte que... Et là on dit il y a une erreur de casting. Dans le cas de Jésus avec Judas, on ne peut pas parler de cela. Dans Jean 13, verset 18, Jésus va dire « Je connais ceux que j'ai choisis. » Le texte ajoute « Il faut que l'Écriture soit accomplie. » Et là, de citer Le psaume 41, verset 10, « Celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. » Vous savez que manger avec quelqu'un, et on l'a vécu il y a peu de temps ici avec la Sainte-Seine, signifie beaucoup de choses. Être reçu à la table de quelqu'un signifie être admis dans sa confiance. Et toute trahison de quelqu'un qui a été reçu autour de ma table devient donc encore plus coupable. Et lever le talon contre quelqu'un, c'est une expression qui peut facilement se comprendre, c'est comme un cheval qui rue. C'est une image de brutalité, une image assez violente, forte. Et si ce psaume est bien de David, alors le personnage auquel il est fait allusion serait Achitophel, qui est conseiller personnel de David. Nous trouvons ça dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 12, le texte qui est cité par Jésus. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher de la ville de Guilo Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et voilà que cette Achitophel va prendre le parti pour Absalom dans la révolte que se livra ce fils ingrat à son père. Et nous lisons cela dans la suite du texte au chapitre 17. Et il se trouve que ce fameux Achitophel, voyant sa trahison découverte, s'en alla et s'étrangla. Et on voit là une étrange ressemblance entre la destinée de ce Judas et celle de ce Achitophel. Et Jésus va appliquer ces paroles de David lorsqu'il parle de Judas. Alors ça ne nous répond pas à la question pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas dans son équipe ? Parce que oui, malgré tout cela, Jésus l'avait nommé parmi les 12 et en plus trésorier du groupe. Et oui, c'est Judas qui tenait la bourse. Et vous imaginez une commission de nomination aujourd'hui dans nos églises qui choisirait comme trésorier celui qui est ouvertement un voleur. Complètement impossible. Et ce que j'admire par rapport à Jésus, c'est cette constance dans l'amour vis-à-vis d'un homme qui allait le trahir. C'est Jésus qui a dit, hein, « Aimez vos ennemis ». Pas qui d'autre aurait pu prononcer cette parole. Et cela m'interpelle encore aujourd'hui, parce que ça fait naître en moi des sentiments qui semblent pas très naturel. Et pourtant, Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Alors la question pour nous aujourd'hui, et je m'inclus bien sûr dedans, c'est qu'en est-il de mes sentiments vis-à-vis de ceux qui font du mal à l'Église aujourd'hui, de ceux qui la persécutent, de ceux qui n'arrêtent pas de la mépriser, de ceux qui la critiquent, elle et ses membres, ceux qui nous paraissent parfois avoir trahi leur foi. Quel est mon sentiment par rapport à ces personnes ? Un ami qui trahit votre confiance, confiance que vous aviez mis en lui, c'est terrible, encore plus terrible que quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Mais si c'est votre cercle proche, que faire ? Et pourtant, voilà, aujourd'hui, Jésus qui vient me dire et me redire que mon regard sur lui doit rester celui de l'amour. Alors il est facile de voir dans les autres des traîtres potentiels, facile peut-être de déceler les choses qui ne vont pas chez les autres, hein. La paille de l'autre. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et souvent, on aime s'identifier à des personnages de la Bible, mais rarement on s'identifie à Judas quand même. Ah, j'imagine. Alors, il nous faut prendre garde lorsqu'on parle d'un tel sujet de n'avoir devant les yeux que le cas de personnes qui nous entourent, que nous considérons comme des traîtres. Si on fait ça, on peut se méprendre facilement, parce que peut-être que le plus grand traître, c'est nous-mêmes. Le plus grand des traîtres, c'est nous, nous qui sommes pécheurs et qui trahissons ainsi Jésus. Et alors nous sommes bien heureux de constater que Jésus garde ce regard d'amour, même sur Judas. Parce que du coup, nous nous rendons compte que Jésus ne nous abandonne pas, qu'il est présent, qu'il porte ce regard sur nous. Au contraire, alors qu'il mangeait à table avec des gens qualifiés de mauvaise vie, d'ailleurs les pharisiens lui en faisaient le reproche, la réponse de Jésus était claire, « Je suis venu non pas pour soigner les bien portants, qui se croient justes, mais les pécheurs. » Et je dirais ce matin pour nous, dans le cadre de notre réflexion, pour aussi les traîtres. D'ailleurs, la Bible nous présente un deuxième traître célèbre. Après Judas, peut-être le deuxième, ça serait Pierre. Lui qui, à trois reprises, va renier son maître. « Non, je ne le connais pas. Non, je n'étais pas avec lui. » Arrêtez. Non, trois fois. Et pourtant, vous voyez que le sort de Pierre sera à l'opposé de celui de Judas. L'un a choisi de se donner la mort. L'autre a choisi de retourner vers la source de la vie qu'est Jésus-Christ. Voilà que le repentir de Pierre était sincère. Le texte nous dit qu'il pleura amèrement. Et Jésus va lui pardonner totalement, au point de lui confier avec les autres disciples la mise en place de son Église. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est nous qui sommes aussi traîtres dans des circonstances de notre vie, et trop souvent malheureusement, qu'en est-il de notre repentir ? Est-ce que nous avons choisi la voie de Judas, c'est-à-dire le suicide spirituel ? Ou est-ce que nous préférons, comme Pierre, venir aux pieds de Jésus, reconnaître, pleurer amèrement, et ainsi trouver la voie vers Dieu ? Ce choix nous appartient. Jésus laisse à chacun la liberté. Et j'ai du plaisir à voir cette image d'un Jésus, les bras grands ouverts, qui nous dit ce matin, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, qu'il manifeste envers chacun d'entre nous. Il lui dit, toi le traître, viens et suis-moi. Amen.